bonjour et bienvenue dans le monde. Aujourd'hui, 30 minutes d'actualité présentées par Nanit Talani. Au menu, situation confuse à Goma, réunion d'urgence de l'ONU sur la situation dans l'est de la RDC, appelant Kigali à retirer ses forces. Le président kényan convoque une rencontre des pays est-africains sur la tension dans l'est congolais. Au moins 27 soldats nigériens tués dans le nord-est du pays dans un attentat suicide djihadiste. Le chef de l'armée soudanaise a retrouvé son quartier général à Khartoum, qu'il avait dû quitter en 2023 en raison de l'occupation par ses rivaux des FSR. En magazine, nous ferons le point sur la protestation des retraités au Congo-Brazzaville qui réclament leur pension impayée depuis 11 ans.
Nous sommes là, ça nous fait déjà 2 semaines qu'on tape et aucune réponse. Et à la maison, vous ne laissez rien. Nous sommes vraiment malheureux. C'est notre pension. Nous ne venons pas pour quémander.
En économie, au Bénin, la récolte de noix de cajou estimée à 225 000 tonnes. Le prix du kilo fixé à 375 francs. En sport, Cannes 2025, tirage au sort en grande pompe au Maroc. Les 24 équipes connaissent leur groupe. Mais tout de suite, le journal. Les rebelles du M23 ont annoncé hier avoir pris Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, après une offensive qui a dû forcer des milliers de personnes à fuir, ont rapporté les agences Reuters et AP. Nous avons pris Goma et avons ordonné aux soldats de se rendre avant 3h du matin, heure locale, a déclaré à Reuters Corneille Nanga, chef de l'alliance du fleuve Congo qui comprend le M23. Reuters n'a pas pu déterminer de manière indépendante si la ville était entièrement sous contrôle rebelle. Des porte-paroles du gouvernement de Kinshasa et de l'armée n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La VOA a essayé de rejoindre le porte-parole du gouvernement de Kinshasa, mais n'a pas encore réussi à obtenir sa réaction. Tout de suite, direction Goma dans l'est de la RDC où la situation reste très tendue. Pour un état des lieux, retrouvons en direct notre correspondant Fiston Issemwani. Bonjour Fiston, quelle est la situation à Goma?
Bonjour, après justement une nuit terrifiante et horrible, ce matin, la situation, quand bien elle reste tendue, mais dans certains coins de la ville touristique de Goma, notamment vers Kessero, où on observe déjà, on a observé depuis 6 heures de ce matin les mouvements de la population. Il y a ceux-là qui ont commencé à quitter encore une fois de plus leurs habitations, mais aussi il y a ceux qui ont décidé bien sûr de rester en ville de Goma. Ils ont commencé déjà à chercher par exemple de l'eau. Vous savez déjà depuis près d'une semaine qu'il n'y a pas de courant dans la ville de Goma. La conséquence est que de l'eau non plus, l'eau ne va pas couler de deux robinets. C'est pourquoi certaines personnes prennent déjà la direction du lac pour chercher quelques bidons d'eau pour leur survie bien sûr. Alors on signale également dans la partie nord de la ville vers deux lampes, pour ceux-là qui connaissent la ville de Goma. C'est un quartier où se trouve bien sûr la prison centrale de Goma, d'Imundende. On a signalé des crépitements de balles ce matin parce que certains prisonniers ont tenté de s'évader de cette prison et les éléments qui sont commis à la garde ont été obligés de réagir. Dans le quartier Mazingo également, il y a quelques coups de balles qui retentissent, mais ce n'est pas comme hier en tout cas. Aujourd'hui, la situation semble être un tout petit peu différente par rapport à hier.
Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous dans nos prochaines éditions. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier dimanche pour évoquer justement la situation dans l'est de la RDC, appelant Kigali à retirer ses forces de la région. Kinshasa a accusé le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre en envoyant de nouvelles troupes pour soutenir le groupe armé du M23 qui assiège désormais Goma, la capitale du Nord Kivu. Le point avec Eric Manirakiza.
La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté de la RDC et a appelé le Conseil de sécurité à imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques rwandais. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par l'escalade de la violence et a appelé au retrait des forces rwandaises. Le président français Emmanuel Macron, l'Union européenne et l'Union africaine ont également appelé à un cessez-le-feu et à la fin des hostilités. Les États-Unis condamnent l'offensive du Rwanda et du M23 et utiliseront tous les outils disponibles contre ceux qui alimentent ce conflit, a déclaré leur représentante à l'ONU. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité dimanche, plusieurs États membres ont aussi pointé du doigt le Rwanda, notamment la France et les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais d'autres n'ont pas nommé Kigali comme la Chine ou les membres africains. Le Conseil, dans son ensemble, s'est contenté de souligner l'importance de l'intégrité territoriale de la RDC. L'ambassadeur rwandais à l'ONU, Ernest Guamucho, a rejeté sur Kinshasa la responsabilité de la détérioration de la situation dans l'Est, accusant le gouvernement congolais de n'avoir pas pris un vrai engagement pour la paix. Il a également accusé la mission de maintien de la paix de l'ONU MONUSCO d'avoir rejoint une coalition avec l'objectif clair de changer le régime au Rwanda.
La présidence kényane a annoncé dans un communiqué un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est dédié à la situation dans l'Est de la RDC qui doit se tenir dans les prochaines 48 heures en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. En consultation avec les chefs d'État de la région sur cette situation extrême, nous allons organiser un sommet extraordinaire de l'EAC dans les prochaines 48 heures pour délibérer sur cette crise et tracer une voie à suivre, a déclaré le président kényan William Ruto, qui assure actuellement la présidence de l'organisation régionale. Je remercie à la fois le président Tshisekedi et le président Kagame pour leur participation confirmée à ce sommet, a-t-il ajouté. Au moins 27 soldats nigérians ont été tués dans le nord-est du pays dans un attentat suicide djihadiste, ont annoncé hier dimanche deux sources militaires, ce qui constitue l'un des attentats suicides les plus meurtriers visant des militaires ces dernières années. Le point avec Michel Joseph.
L'armée a lancé vendredi une offensive terrestre contre un bastion de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans le triangle de Tombouctou, une zone à cheval entre les États de Borno et de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze a précipité son véhicule chargé d'explosifs, dissimulé dans un épais feuillage, sur un convoi de troupes, ont déclaré deux officiers militaires s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. L'attentat suicide a tué 27 soldats, dont le commandant, et en a grièvement blessé plusieurs autres, a déclaré l'un des deux officiers. L'autre officier a donné le même bilan, laissant entendre que le nombre de victimes pourrait augmenter car certains des blessés sont dans un état critique. Début janvier, 9 soldats ont été tués dans une attaque djihadiste contre une base militaire dans l'état de Borno. En novembre, 5 soldats nigérians ont été tués et 10 autres blessés lors d'une attaque visant une base dans le village de Kareto, près de la frontière avec le Niger.
Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé hier dimanche son quartier général à Khartoum, qu'il avait dû abandonner en août 2023 à ses rivaux paramilitaires, des forces de soutien rapide. Les précisions avec Abdourahmane Dia.
La reconquête de son quartier général est la plus grande victoire de l'armée dans la capitale depuis la reprise d'Omdurman, ville jumelle de Khartoum sur la rive ouest du Nil, il y a près d'un an. « Nos forces sont au meilleur de leur forme », a déclaré le général Burhan dans le quartier général selon une vidéo diffusée par l'armée. L'armée soudanaise contrôle, selon des témoins, la majeure partie de Bahri ainsi que le nord et le centre d'Omdurman. À Khartoum, elle tient aussi la base du corps blindé dans le sud de la capitale. Dans un communiqué vendredi, l'armée a déclaré avoir fait la jonction entre ses troupes à Khartoum Nord et à Omdurman et c'est la proximité du quartier général. L'armée a indiqué avoir expulsé les FSR de la raffinerie de Djaïli au nord de la capitale, la plus grande du pays, sous le contrôle des paramilitaires depuis le début de la guerre. Il y a deux semaines, l'armée a repris le contrôle de Wad Madani au sud de Khartoum, sécurisant un carrefour clé avec les États environnants. Le conflit au Soudan a déclenché une catastrophe humanitaire, tué des dizaines de milliers de personnes et déraciné plus de 12 millions d'habitants.
Le ministère de l'Information de la Sierra Leone a annoncé enquêter sur des informations affirmant que Joss Leschdekers, 33 ans, un trafiquant de cocaïne européen recherché, se trouve dans le pays depuis au moins 2023 et bénéficie d'une protection de haut niveau. Leschdekers, condamné à 24 ans de prison aux Pays-Bas pour trafic de plus de 7 tonnes de cocaïne, est sur la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europol. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, tournons notre attention vers la Minute Éco. Voici les dernières nouvelles économiques et financières avec Nathalie Barge.
Le Rwanda et la Chine ont signé un accord de financement d'une valeur de 47 millions de dollars pour le barrage de Gisseke et le projet d'irrigation dans le district de Gisagara. Le ministère des Finances précise sur X que cette initiative renforcera la résilience agricole au changement climatique en irriguant 2640 hectares, bénéficiant directement à environ 915 ménages qui utiliseront les infrastructures pour les cultures. Au Bénin, le gouvernement a annoncé que la récolte de noix de cajou est estimée à 225 000 tonnes entre février prochain et avril, soit une hausse de près de 12% par rapport à la campagne précédente. Le prix du kilo a été fixé à 375 francs cette année. Le Bénin interdit depuis avril 2024 l'exportation de l'anacarde brute afin de permettre la transformation au niveau local. Au Nigeria, ExEjet a lancé la construction d'un centre de maintenance et réparation à l'aéroport d'Abuja. Le projet comprend un hangar de travail, un terminal d'affaires privées, des hôtels et des centres de conférences. Les travaux confiés à une compagnie chinoise seront effectués dans le cadre de la politique de développement des services de maintenance aéronautique du Nigeria.
C'était tout pour les nouvelles économiques. À présent, plongeons-nous dans le monde sportif sous la direction d'Élisée Oukpatin. Bonjour Élisée, bonjour à tous.
Oui, bonjour Nanit et bonjour à tous.
Football à la une avec le tirage au sort aujourd'hui au Maroc de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, et cette cérémonie aura lieu au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Ce tirage, qui est le point de départ symbolique de la compétition, verra les 24 sélections qualifiées réparties dans 6 groupes de 4 équipes. L'événement réunira des personnalités du football africain, des dirigeants de fédérations et des légendes, à savoir l'Égyptien Hicham El Adari, le Camerounais Patrick Mboma, le Tunisien Aymen Metlouti, l'Ivoirien Jeff Vigneault, le Zambien Christophe Katongo et le Malien Mohamed Sissoko. La CAN, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Sur les pelouses africaines, certaines ligues ont mis à jour leur calendrier.
C'est le cas du Sénégal avec la 10e journée de la Ligue 1 où Djaraf est sorti vainqueur 3-2 du match choc face à Tenguet. Grâce à ce succès, le club de la Médina qui compte 19 points grimpe à la 3e place du classement toujours dominé par l'US Gorée. En Tunisie, c'est aussi un duel qui marquait la 15e journée en retard du championnat. Et à Mounasti, l'Espérance de Tunis s'impose 2-0 pour se placer à la 5e place avec 30 points. L'USMO reste 2e avec 33 points, un de moins que le leader, le Stade tunisien. Et puis, au Maroc, la Renaissance de Berkane consolide sa première place après avoir battu Tanger 3-1 lors de la 18e journée de la Botola.
Élisée, par contre, en Égypte, le championnat suit son cours normal.
Effectivement, Nanit, avec la 10e journée de la Première Ligue, et Al Ahly du Caire n'a pas réussi à battre Pyramide FC qui occupe la première place, score 2-2. Le géant du Caire, classé 2e, n'a qu'un seul point d'avance sur Cléopatra, vainqueur 1-0 d'Al-Ghazi. On jouait la 8e journée au Togo et Gboué-le-Sou s'empare de la tête du classement après son succès 2-1 sur l'étoile filante de Lomé. Le club d'Anéhor compte un point d'avance sur l'AS Bina de Sokodé, contraint au nul 0-0 par Gomido de Kalimé. Et puis 9e journée au Cameroun et Gazelle de Garoua, victorieuse 3-1 de Victoria United, partage la première place avec Colombe de Dja, battu 1-0 par le canon de Yaoundé.
Et puis du handball avec le mondial masculin qui se poursuit, l'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale.
Oui, suite à sa victoire 31-24 sur le Cap-Vert pour son troisième match du tour principal. Ce succès permet aux champions d'Afrique de finir deuxième de leur groupe derrière la Croatie et devant l'Islande. En quart de finale, l'Égypte sera opposée à la France qui a fini première de sa poule.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie pour cette deuxième partie de notre journal qui vous plonge dans des analyses et des entretiens exclusifs. Au Congo-Brazzaville, des retraités de la municipalité de la capitale attendent leur pension depuis 11 ans. Ils manifestent presque quotidiennement devant le siège de leur employeur dans le but de voir leur situation se régulariser et toucher enfin leur premier paiement. Les autorités promettent de gérer toutes les situations sociales d'anciens travailleurs. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Chaque jour, depuis deux semaines, ces retraités de la municipalité de Brazzaville viennent manifester devant le siège de la mairie centrale pour réclamer leur prise en compte dans le paiement des pensions. Dans cette vie d'errance, 70 ex-agents de la mairie sont décédés, sont touchés à leur pension. Une vie difficile que décrit ici Angélique Makosso, une manifestante.
Est-ce que nos autorités, ils ont pitié de nous? Est-ce qu'ils ont vraiment ce cœur-là pour que nous, nous puissions taper tous les jours là? Nous sommes là, ça nous fait déjà deux semaines qu'on tape et aucune réponse. Et à la maison, vous ne laissez rien. Nous sommes vraiment malheureux. C'est notre pension. Nous ne venons pas pour quémander.
Bernard Ayélé, lui, ne comprend pas pourquoi les autorités les laissent moisir sous les soleils alors que la situation avait déjà fait l'objet d'un règlement entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la mairie de Brazzaville.
Mais nous sommes devant les autorités qui ne sont pas sérieux. C'est un petit problème à résoudre. Entre la CNSS, la primature, nous, quant à nous, la CNSS ne doit pas s'en prendre à nous. C'est à l'État. Vous pensez pour 150 millions, même le président de la République peut accepter que la CNSS tombe à cause de 150 millions, tandis que nous, on n'a rien fait. Donc nous sommes pénalisés. Ça fait 11 ans, on n'a pas de pension.
Pour le secrétaire général adjoint du comité de manifestation, c'est de l'injustice sociale que le gouvernement doit réparer. Blaise Kangou.
Du premier mois qu'on a commencé à travailler jusqu'au dernier jour, on a versé régulièrement la CNSS. Nous ne devons pas. Point de vue de la dette que la mairie devait à la CNSS, le directeur général de la CNSS, là où il est conscient qu'il a reçu beaucoup d'argent. Et donc, ce que nous sommes en train de subir là, c'est simplement de l'injustice. J'ai parlé de condamnation à mort. Nous sommes effectivement en train de mourir. On a déjà enregistré 70 morts.
Dans le cadre du dialogue social qu'il a relancé récemment à Brazzaville, le Premier ministre Anatole Coliné Makosso a indiqué que le gouvernement tiendra ses promesses en 2025.
En dépit du contexte qui demeure difficile en ce début d'année, le gouvernement s'efforcera, tant bien que mal, de réunir les conditions de pouvoir honorer tous les engagements financiers de l'État, notamment ceux dus aux employés des administrations et entreprises publiques et privées, sans se départir de sa volonté de toujours œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des employés des secteurs publics et privés. Plusieurs avancées ont néanmoins été enregistrées sur le plan social.
Pour le moment, les hommes et femmes retraités de la mairie de Brazzaville viennent défier le soleil et la pluie pour réclamer leurs droits. Quant aux employés actifs de la mairie de Brazzaville, ils cumulent déjà une dizaine de mois de salaires impayés. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, la lutte contre le désordre urbain à Yaoundé satisfait la population mais fait grincer les dents chez les commerçants ambulants. Ces derniers traînent les pieds pour rejoindre les sites de recasement nouvellement aménagés au profit des trottoirs et rues de la capitale. Le maire de la ville de Yaoundé a décidé de lancer une opération coup de poing pour libérer la voie publique. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
L'opération d'interdiction de la vente des marchandises dans les brouettes, les porte-tout, les étals portables, sur les rues et les trottoirs n'a pas totalement changé la physionomie au marché Mokolo, dans le deuxième arrondissement, selon Arsène Akono, un chauffeur de taxi.
Et les voitures qui passent, les motos, et les piétons, et ceci, et les brouettiers, tout ça, ça crée toujours les embouteillages dans le marché. On a dégagé même. L'autre, là, qu'on dit là, il y a l'incivisme des gens du marché, c'est mal.
Au total, 15 marchés Carrefour de Yaoundé sont concernés par l'interdiction des activités commerciales sur la voie publique. Christian Bamenga, jeune chef d'entreprise, salue le succès de cette opération à certains endroits.
Pour une ville qui se veut moderne, il faut que les espaces soient bien déterminés pour pouvoir abriter les commerçants. C'est vrai que les conditions ne sont peut-être pas comme dans des pays développés, mais je crois que c'est à force de sensibiliser et peut-être en utilisant également des méthodes fortes comme celle-là que les uns et les autres vont comprendre. L'objectif, je ne pense pas, c'est pas d'empêcher aux commerçants de vendre, c'est que les commerçants vendent, mais véritablement sur des espaces bien appropriés. Et vous savez que dans cet embouteillage, il y a parfois des gens qui profitent pour soutirer de l'argent aux uns aux autres.
Au marché Mokolo, un vaste hangar a été aménagé pour écaser tous les vendeurs ambulants qui écument les trottoirs, mais ces derniers rechignent à s'y installer. Yaouba Abdoulaye, coordonnateur des associations des vendeurs à la sauvette du marché Mokolo.
Il y a certaines leaders des associations qui s'enrichissent au dos de ces sauvetteurs. Chaque mois, ils collectent des sommes disant qu'ils amènent chez les autorités. On ne sait pas là où ça part. Ils mettent dans leurs poches tout le temps et c'est ce qui encourage nos frères à rester en route.
Plusieurs espaces marchands ont été aménagés à Yaoundé pour écaser les commerçants ambulants. Ces espaces sont vendus à 60 000 francs CFA. Yimgen Moussa, président national des opérateurs du secteur informel pour la lutte contre la pauvreté au Cameroun.
Nous allons lutter ensemble parce que nous voulons un site de recasement. Voici donc un site de recasement. Si nous n'installons pas, pourquoi nous avons donc combattu longuement pour avoir ce recasement? C'est la question sur le soleil, sur la pluie. Voici ce que Dieu nous a donné. Venez ensemble que nous soyons recasés pour laver notre pays, pour avoir la crédibilité.
Ces commerçants ambulants dénoncent sous anonymat cette opération qui leur est défavorable.
Je me fais ça, pour moi, très mal. Vous savez qu'ils sont partis prêter l'argent dans les banques. Et on fait comment? Parce que quand vous prêtez dans une banque, on a, il y a un délai. Vous avez mis un truc en garantie. Vous allez faire comment?
Nous qui sommes débrouillés en bordure comme ça, nous allons partir. On va donc aller où?
Le maire de la ville de Yaoundé a indiqué que tout contrevenant à la mesure de libération des emprises sur la voie publique s'expose aux mesures répressives. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, les autorités prédisent une année économique favorable en 2025 avec un taux de croissance estimé à 7%. Mais malgré ces chiffres, le panier de la ménagère et le quotidien des Ivoiriens restent inchangés face à la cherté de la vie et le coût des denrées alimentaires. Une situation relatée dans ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Noumenio.
Lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux pour le nouvel an, le patronat ivoirien s'est félicité des avancées économiques enregistrées par la Côte d'Ivoire. Le pays figure dans le top 10 des économies de la sous-région et devrait tabler sur un taux de croissance de 7% en 2025. Alassane Ouattara, président de la République ivoirienne.
En cette année 2025, notre pays continuera sa croissance sous le double signe de l'inclusion et de la durabilité. Les investissements stratégiques se poursuivront dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.
Même si les chiffres semblent favorables sur le plan macroéconomique, la réalité est tout autre sur le terrain. Beaucoup d'Ivoiriens ont du mal à joindre les deux bouts et ils sont nombreux à ne pas s'en sortir à cause de la cherté de la vie. Kofi Amou-Irène, commerçante à Yopougon.
Pardonnez, président. Pardonnez, on fait pitié. Nos petits-enfants, les enfants vont à l'école. On n'a pas maison. Ils ont cassé maison. C'est ici, on se débrouille pour manger un peu. Où on va partir? Il y a beaucoup de bagages dans notre main. On ne sait pas où on va vendre. Pardonnez, vous devez pardon.
Larissa Adjé, commerçante à Yopougon.
Mais maintenant où on est là, la vie est devenue difficile. C'est devenu difficile. Garçon, nous, il va faire tout de la maison. Les enfants, la fourniture est chère, l'école est chère. Enfant va venir, il va dire, maman, on dit de payer ça, tu vas enlever ça où? C'est sur bidon, sur le marché, tu vas enlever pour faire. Tu attends ton mari d'abord avant de faire pour ton enfant. Vraiment, on dit femme patente, on dit les femmes de Côte d'Ivoire sont patentes. C'est nous.
Selon les experts, ce contraste entre les chiffres et le quotidien des Ivoiriens est notamment dû aux différentes crises économiques que traverse le monde. Le conflit en Ukraine, en Israël et la crise de Covid-19 en sont les principales causes. Une réalité que les Ivoiriens ne maîtrisent pas. Isabelle Vauvor, journaliste économique.
Relativement à la vie chère, il faut savoir que les populations ivoiriennes se tournent d'un premier abord vers le gouvernement. Il faut savoir que bon, ils ont élu en tout cas un président qui a donc pour mission avec son gouvernement de juguler donc le prix des matières premières et surtout le panier de la ménagère au niveau local. Donc les populations se tournent d'abord vers le gouvernement et ensuite au gouvernement et aux médias, donc au rôle de médias que nous sommes, de façon pédagogique d'expliquer aux populations qu'on est dans une guerre russo-ukrainienne, une guerre qui est mondiale, qui a des impacts donc au niveau de plusieurs États, notamment de la Côte d'Ivoire et notamment au niveau du panier de la ménagère comme on peut le voir.
Selon la Banque africaine de développement, les perspectives économiques demeurent favorables pour la Côte d'Ivoire, avec une croissance du produit intérieur brut projetée à 7%. Ange Bijounomeyon pour VOA Afrique, à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Tusaïwe Mokoneya connaît ce qu'est la solitude. Elle a été abandonnée par sa mère à l'âge de 6 ans et élevée par sa grand-mère. Aujourd'hui, elle sauve des bébés abandonnés, des enfants vulnérables et des mères adolescentes au Malawi. Suivez ce reportage de Timwemwe Padata, relaté par Thierry Kaoré.
Tusaïwe Mokoneya a été abandonnée par sa mère à l'âge de 6 ans. Sa grand-mère l'a élevée, mais elle n'a jamais oublié ce que cela signifiait de vivre sans sa mère. Elle tente aujourd'hui d'aider d'autres personnes qui ont été abandonnées ou marginalisées.
Nous fournissons un abri, de la nourriture ainsi que tout type de soutien qu'une mère ou un père apporte à ses enfants. C'est ce que nous faisons.
Madame Mukundia a fondé le centre Yana, qui signifie « vous n'êtes pas seul », dans la banlieue de Mzuzu, la capitale de la région septentrionale du Malawi, où elle fournit des soins et un soutien à environ 200 enfants. Son organisation offre également un foyer aux enfants abandonnés ou orphelins, dont certains sont handicapés, et aux personnes âgées. Elle est également en train de construire un collège technique où les jeunes mères pourront poursuivre leurs études après avoir terminé l'école secondaire.
Nous voulons que nos enfants aillent à l'université. S'ils ont du mal à aller à l'université en raison d'un handicap ou d'une difficulté, nous construisons une école technique pour eux afin qu'ils puissent acquérir des compétences qui les aideront à devenir indépendants.
Deborah Magalassi, 16 ans, est une orpheline du district de Tcho à environ 500 km. Elle a passé 6 mois au centre Yana.
J'ai rencontré certains problèmes lorsque j'étais dans mon village natal. Je n'avais pas de frais de scolarité. Mon père et ma mère sont décédés. La seule personne que j'ai dans ma vie, c'est ma grand-mère.
Certains membres de la communauté de Mzuzu, comme Magalizo Tupa, affirment que l'initiative Yana a eu un impact positif.
Nous avons constaté que les choses s'améliorent parce que nous avons vu que les enfants apprennent. Ils ont une belle école, ce sont des choses dont nous bénéficions ici.
Le Malawi a actuellement l'un des taux de grossesse chez les adolescentes les plus élevés d'Afrique subsaharienne, soit 29% selon les Nations Unies. Selon Emma Kalia, directrice exécutive du Centre de ressources des droits de l'homme du Malawi, le manque de soins et de soutien des parents conduit de nombreux enfants à la rue.
Certaines personnes ont des enfants dont elles ne s'occupent pas. C'est ce que nous voyons. Des pères qui sont absents et même des mères qui veulent être absentes.
Ces dernières années, le Malawi a adopté plusieurs lois visant à protéger les enfants, notamment la stratégie nationale contre le mariage précoce en 2024. Les autorités gouvernementales affirment